Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. C'était hier au Sénat, une conférence de soutien aux Iraniens qui manifestent leur révolte contre le gouvernement. Conférence organisée à l'initiative de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat et candidat à la présidence des Républicains. Il sera l'un de nos invités. Une rencontre très attendue cet après-midi lors du mondial de football au Qatar, France-Tunisie à 16h. Ce mondial a réservé de nombreuses surprises, comme le soulignera Franck Orokoti, directeur d'Africa Top Sport au Togo. Un attentat suicide a fait au moins 3 morts et 23 blessés dans l'ouest du Pakistan. L'attaque a visé des policiers qui accompagnaient une équipe de vaccination contre la polio. L'ancien président chinois Jiang Zemin est mort. Il était âgé de 96 ans. Il a présidé son pays de 1993 à 2003 dans une ère de profond bouleversement. C'était hier la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, journée marquée par la mort de 5 Palestiniens en Cisjordanie occupée. Nous écouterons l'ambassadrice de Palestine en France, Ala Abou Assira. Elle fait part de son inquiétude avant la formation du futur gouvernement israélien. Une conférence de soutien aux Iraniens qui se révoltent contre leur gouvernement a été organisée hier soir au Sénat à l'initiative de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat et candidat à la présidence des Républicains. Une résolution appelant à un renforcement des sanctions contre le régime iranien sera votée prochainement par la Haute Assemblée. Un régime qui doit être mis à terre le plus vite possible, affirme Bruno Retailleau au micro de Radio Orient.
Alors cette manifestation, nous l'avons organisée dans un double objectif. C'est d'abord un message et un hommage. Un hommage au courage du peuple iranien, à ces femmes qui luttent contre un régime oppressif pour leur liberté. Et puis l'autre objectif, c'est de leur dire qu'ils ne luttent pas seuls, que nous sommes à leur côté et que avec nos armes, les armes d'une démocratie, les armes que nous pouvons utiliser au sein de la communauté internationale, nous allons être utiles dans leur combat. Et précisément, nous adresserons dans quelques jours un projet de résolution que je souhaite soumettre à mes collègues au Sénat, dans l'hémicycle, pour durcir un certain nombre de sanctions sur le gel des avoirs des individus qui sont impliqués dans la répression, faire en sorte qu'ils ne puissent pas circuler librement, faire en sorte qu'on puisse prohiber l'exportation de technologies, d'armes qui peuvent servir actuellement à la répression du peuple iranien. Bien sûr, nous encouragerons aussi toutes les sanctions qui sont décidées soit dans le cadre européen ou soit dans le cadre de l'ONU. On trouve absolument aberrant que la République islamique d'Iran fasse toujours partie l'organe de l'ONU qui s'occupe du droit des femmes. C'est une aberration. Donc nous sommes là en alerte aux côtés des Iraniennes, aux côtés du peuple iranien. Nous les soutenons de notre mieux que nous pouvons.
Vous saluez la rencontre entre Emmanuel Macron et des opposantes iraniennes, un geste totalement inédit?
Mais bien sûr, je pense qu'aucun geste n'est inutile. Ces gestes-là peuvent apparaître vis-à-vis de la gravité de la répression, vis-à-vis de ces centaines de morts, comme des gestes finalement dérisoires. Mais rien n'est jamais dérisoire. Il faut que le peuple iranien sache que par-delà toute la planète, par-delà le monde, et particulièrement en France qui est la patrie des droits de l'homme, eh bien nous nous levons, nous sommes à leur côté et nous voulons les encourager dans un combat difficile.
Vous avez été sensible notamment à la condition des enfants en Iran qui sont victimes aussi de la répression.
C'est terrible. J'ai ici la liste de ces enfants avec leurs photos, leurs noms, leurs états civils. Et qu'un régime puisse tuer froidement des enfants dans la rue montre que ce régime doit être mis à terre le plus vite possible.
Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et candidat à la présidence des Républicains, il répondait à Loïc Barrière. Le mondial de football, une journée marquée par une rencontre entre la Tunisie et la France, cet après-midi à 16h. Les Bleus retrouveront les Aigles de Carthage pour la première fois depuis 2010. Une rencontre à l'occasion de la troisième journée du groupe D. Un match décisif pour une éventuelle qualification de la Tunisie. Les Bleus sont eux déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ce mondial a déjà réservé de nombreuses surprises, comme le souligne Franck Orokoti, directeur d'Africa Top Sport au Togo.
Il faut faut d'abord noter que l'Europe n'est plus le centre du football, parce que lorsqu'on parle du Coupe du Monde, généralement, l'Europe domine pratiquement le tournoi, surtout le premier tour. Mais aujourd'hui, on peut constater que les petits poussés, les pays qui n'ont pas comme culture le football, arrivent quand même à dominer les grands pays comme l'Argentine. Par exemple, on a vu l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine de Lionel Messi. On a vu également le Maroc qui domine justement la Belgique. Donc aujourd'hui, on peut dire que avec le travail des autres pays, avec justement la formation au niveau des joueurs, au niveau des staffs techniques, les autres pays également arrivent donc à dompter justement les grands pays dits de football.
C'est lié à la formation, dites-vous, qui a évolué ?
Oui, c'est lié à la formation. Il faut dire que depuis un moment, il y a un déplacement des Européens, on peut dire des techniciens européens qui arrivent dans les pays, soit africains, dans les pays du Moyen-Orient, qui forment également les techniciens là, qui viennent également avec les machines et tout ça, les équipements sportifs. Donc ce qui fait qu'avec les centres de formation qui pullulent partout dans ces pays, on arrive à former les joueurs. Et aussi, il faut noter que le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite par exemple, qui met beaucoup de moyens en termes de football, au niveau de leur championnat, et multiplie les compétitions, donc les tournois et autres. Ce qui fait qu'il y a un nivellement aujourd'hui par rapport donc à ces pays, aux pays européens. Donc même les pays qui sont réputés pays de football, le Brésil par exemple, même si le Brésil tient jusque-là son rang, l'Argentine a été dominée par l'Arabie Saoudite. On a vu comment les joueurs de l'Arabie Saoudite se sont donnés justement. On sent qu'il y a une condition physique qui est là. On sent qu'il y a une volonté au niveau des joueurs. Donc aujourd'hui, avec l'apport des techniciens européens qui transfusent vers ces pays, il faut dire qu'il y a un travail qui se fait, qui fait qu'il y a un nivellement de football partout.
On l'entend, c'est une évolution historique que vous soulignez.
Oui, c'est très important. C'est très important et on ne doit pas être surpris lorsque, par exemple, l'Afrique arrive à gagner la Coupe du Monde ou soit les pays du Moyen-Orient arrivent à gagner la Coupe du Monde. On ne doit pas être surpris dans la mesure où un travail se fait. On a vu, lorsque l'Arabie Saoudite a gagné, par exemple, cette victoire a créé de l'émulation, justement, de l'humiliation. Ça a créé beaucoup de choses dans le pays. Et le jour suivant, il y a le roi qui a férié ce jour. Je crois que ça a donné beaucoup de bonheur, ce qui fait qu'il y aura dans les jours à venir un certain nivellement. On ne va plus avoir peur, par exemple, de l'Argentine. On ne va plus avoir peur de la France, de l'Allemagne et tout ça. Même si aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps que l'Allemagne n'a pas été inquiétée lors du mondial. La dernière fois, c'était en 2018, c'est vrai. Mais l'Allemagne n'a jamais été inquiétée lors d'un mondial, par exemple. Donc aujourd'hui, il faut compter avec tout le monde. Il faut compter avec les Africains. Vous voyez, par exemple, les Japonais, ils font beaucoup de choses. Les Coréens également font beaucoup de choses, même si le Ghana a battu cette formation coréenne.
Vous aviez constaté cette évolution lors des précédentes compétitions internationales de football ?
Pas tellement. Comme ce que nous voyons actuellement donc au Qatar, cette Coupe du Monde montre clairement qu'il y a des pays qui émergent donc en football. Donc dans 4 ans, justement, la Coupe du Monde qui va venir, ça sera une grande surprise de voir un pays émergent peut-être sur le podium.
Et est-ce que cela concerne d'autres sports que le football ?
Oui, bon, on sait que le football, c'est le sport roi, c'est le sport qui est bien suivi, mais au niveau des autres disciplines, c'est très compliqué pour le moins pour ces pays, parce que le handball, par exemple, on n'en trouve pas, le basketball est toujours dominé par l'Amérique, les États-Unis et tout. Donc au niveau des autres disciplines, ce n'est pas encore ça, mais je crois que puisque le football va très vite, donc partout dans le monde, il y a un travail qui se fait, ce qui fait que, d'ailleurs, au niveau du football, par exemple, il y a toutes les familles veulent que leurs enfants deviennent, par exemple, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ce qui fait que si un enfant s'adonne à cette discipline, ils ne sont pas contre. Par rapport donc aux autres disciplines, je crois qu'aujourd'hui, le football prend de l'ampleur au niveau de ces pays. et par rapport également à d'autres disciplines. Mais je crois que si le football, les pays arrivent donc à avoir un même niveau que les autres pays dits de football, donc je crois qu'au niveau des autres disciplines également, ça va venir.
Et cette évolution, elle a un impact sociétal dans ces pays?
Oui, parce que moi, par exemple, si je regarde sur les réseaux sociaux, je trouve déjà le don que le prince de l'Arabie Saoudite a fait aux joueurs individuellement. Je crois que c'est une grande chose déjà sur le plan social. Également des autres pays, quand on voit un peu les prix monter. Et aussi au niveau des autres entraîneurs. Les entraîneurs africains, par exemple, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu un entraîneur africain qui gagne, par exemple, 100 000 euros, par exemple. Ça fait très longtemps, mais cette fois-ci, on arrive quand même à augmenter le salaire des entraîneurs. Je crois que sur ce plan également, il y a beaucoup d'évolution et que ça va réjaillir sur les autres domaines.
Franco Rocotti, directeur d'Africa Top Sport au Togo. Et en plus de la rencontre France-Tunisie à 16h, un face-à-face Australie-Danemark aura lieu à la même heure. À 20h, la Pologne jouera contre l'Argentine et l'Arabie Saoudite contre le Mexique. Quatre matchs de la phase de poule de la Coupe du Monde se disputaient hier. Dans le groupe A, les Pays-Bas se sont imposés face au Qatar sur le score de 2-0. Le Sénégal est sorti vainqueur de son duel face à l'Équateur de 2-1. L'Angleterre a dominé le Pays de Galles 3-0. Les États-Unis ont battu l'Iran 1-0 pour rejoindre les huitièmes de finale et affronter les Pays-Bas. L'ancien président chinois Jiang Zemin est mort. Il était âgé de 96 ans. Il a présidé son pays de 1993 à 2003 dans une ère de profond bouleversement. Il était devenu secrétaire général du Parti communiste après la répression des manifestations de la place Tiananmen de Pékin. Lorsqu'il a quitté ses fonctions de président, la Chine était devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce et était en passe de devenir une superpuissance. Un attentat suicide a fait au moins 3 morts et 23 blessés dans l'ouest du Pakistan. L'attaque a visé des policiers qui accompagnaient une équipe de vaccination contre la polio. Un kamikaze a visé un camion de la police qui s'apprêtait à escorter cette équipe. Un attentat revendiqué par les talibans pakistanais 2 jours après leur annonce de la fin d'un cessez-le-feu. C'était hier la journée de solidarité avec le peuple palestinien, journée marquée par la mort de 5 Palestiniens en Cisjordanie occupée. L'ambassadrice de Palestine en France, Ala Abou Assira, fait part de son inquiétude avant la formation du futur gouvernement israélien.
Nous alertons sur ce gouvernement, sur cette alliance potentielle avec plus que l'extrême droite israélienne. C'est une droite fasciste qui demande tout simplement à anéantir et à écraser les Palestiniens, qui rappelle comme slogan électoral « mort aux Arabes et mort aux Palestiniens ». Nous craignons une escalade de la part d'Israël, une escalade dans le sens et plus d'agression, plus d'assassinats, plus de colonisation, plus d'annexion et plus d'apartheid. Nous rappelons la communauté internationale à avoir le courage, un vrai courage, à envoyer des messages politiques clairs à Israël et à ce gouvernement catastrophique en perspective, et de rappeler la nécessité de la paix, la nécessité de mettre terme à l'occupation coloniale israélienne de territoires palestiniens occupés pour que le peuple palestinien puisse enfin exercer son droit inaliénable à l'autodétermination.
Et justement, quelle action concrète attendez-vous de la communauté internationale et notamment de l'Organisation des Nations Unies ?
Nous demandons d'être juste à la communauté internationale, d'être juste et équilibré et d'arrêter à utiliser la politique de deux poids, deux mesures et à appliquer les résolutions et les outils garantis par le droit international contre un État occupant, contre la colonisation israélienne et contre l'État d'Israël qui commet chaque jour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à l'égard du peuple palestinien. Nous demandons l'accélération de l'enquête ouverte par la CPI pour rendre justice et pour rendre responsables les criminels de guerre israéliens pour leurs crimes contre le peuple palestinien. Nous demandons un vrai courage, l'arrêt de l'impunité accordée à Israël et l'application des mécanismes et des résolutions internationales à l'égard de l'État d'Israël, la force occupante de la terre palestinienne.
Et comment accueillez-vous l'action de la France sur cette problématique ?
Nous saluons toujours la position traditionnelle de la France envers la solution à deux États. Mais nous disons que la solution à deux États risque d'être enterrée complètement par Israël. Nous encourageons la France à prendre une initiative politique qui mettrait fin à l'occupation israélienne, qu'il mobilise la communauté internationale en tant qu'État membre du Conseil de sécurité et en tant qu'État membre de l'Union européenne, ici, d'utiliser son influence et sa crédibilité dans la région. La France peut faire beaucoup. Nous attendons une vraie initiative politique et nous attendons une action contre l'occupation israélienne en conformité avec le droit international et les normes des Nations Unies.
L'actualité a été marquée ces dernières semaines par le sommet d'Alger suivi de la déclaration d'Alger. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son contenu et nous dire comment vous l'avez perçu?
Le sommet d'Alger était vraiment un moment d'unité arabe autour de la question palestinienne. C'était un moment qui a marqué la centralité de la cause palestinienne pour l'ensemble des États arabes et pour les peuples arabes. Nous accueillons avec beaucoup d'estime cette déclaration finale qui a réaffirmé la centralité de la question palestinienne et qui a formé un groupe des pays arabes, un groupe pour la Palestine, qui mènerait des actions au niveau international auprès des Nations Unies, auprès de la communauté internationale, justement pour dire il est temps de mettre fin à l'occupation israélienne, il est temps d'arrêter l'impunité d'Israël, et il est temps que le peuple palestinien puisse enfin exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, qu'il puisse enfin jouir de sa liberté et son indépendance dans son État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale.
Ala Abou Assira, ambassadrice de Palestine en France. Emmanuel Macron a entamé aujourd'hui une visite d'État de 3 jours aux États-Unis, la première sous l'ère de Joe Biden. Les discussions stratégiques entre les deux hommes devraient tourner autour de la guerre en Ukraine et du protectionnisme commercial des États-Unis. Après être resté sous la barre des 6%, cet été, la hausse des prix se maintient à un niveau élevé. Ce mois-ci en France, elle s'élève à 6,2% selon les données provisoires de l'INSEE. Le taux d'inflation avait déjà atteint le même niveau sur un an en octobre. Le gouvernement français valide l'encadrement des loyers à Marseille. Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, a donné son feu vert. Les loyers sont déjà encadrés à Paris et dans 18 communes de Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à Lille, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Villeurbanne. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash en langue française, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Bassem Assé, premier adjoint de la maire de Nantes, en charge du dialogue citoyen, du monde économique et de l'emploi, de la politique de la ville et de la proximité, membre du Conseil métropolitain, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h18.